les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste toujours en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers sur Principe Actif.
Bonjour à tous, bienvenue dans une émission des quartiers. Je m'appelle Maxime, élève au micro-lycée situé à Aristide Briand, qui est une structure qui accueille les personnes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire. Nous, personnellement, nous sommes la classe de Motiv. La classe de Motiv, qu'est-ce que c'est? C'est une classe qui sert à créer son projet pour l'avenir, pour avoir un bac ou créer un projet pro pour les années à venir. Dans le micro-lycée, nous avons des projets, dont celui de radio. Et dans ce même projet, nous avons décidé de faire un micro-trottoir. Chaque personne a décidé de prendre un thème bien particulier et poser des questions sur ce thème.
Alors, au menu, il y a des micro-trottoirs sur la cigarette, le cinéma, la mode, la musique, les réseaux sociaux, les tatouages et la télé, ainsi que deux reportages sur les mondiaux de handball qui se déroulent du 11 mars au 19 mars. Il y a un reportage sur l'entraînement de l'entraîneur de Marc Perron et le deuxième sur trois joueurs de l'équipe. Ces reportages ont été réalisés par Julien, Maxime, Angélique, Nicolas, Fabien, Julien, Lucilia, Adrien, Marine et Jean-Luc.
Principe actif, c'est actif par principe.
Nous allons commencer par entendre un micro-trottoir, un extrait du micro-trottoir sur le thème de la cigarette qui a été réalisé par Lucilia.
À ce que je vois, vous fumez ?
Malheureusement, oui.
Vous fumez combien de clopes par jour ?
De trop. Faut compter 3 paquets par jour.
5, après.
Ça vous ramène à combien par mois ? Au niveau d'argent ?
Oui, à peu près 20 euros, à peu près.
20 euros par mois ?
À peu près.
6, ouais, tu comptes à 18 euros par jour. Donc, voilà, quoi.
Ça revient à beaucoup.
Oui.
Vous comptez arrêter de fumer un jour ? Pour vos enfants ou...
Oui, quand même, oui.
Oui, pour vos enfants.
J'ai essayé, ouais, j'ai l'intention.
Oui. Ouais. Fumer à l'intérieur de chez vous ou à l'extérieur ?
À l'extérieur.
D'accord. Les deux.
Le prochain micro-trottoir que nous allons vous proposer est sur le thème du cinéma par Maxime.
Quel genre de film avez-vous voir au cinéma ?
Eh ben, je ne vais jamais au cinéma pour le coup.
Je suis assez éclectique en fait, j'ai pas vraiment de genre prédéfini. Donc, mis à part l'horreur, je pense que maintenant le cinéma doit partir un peu en couille, mais sinon, ouais, aventure, cinéma d'auteur, blockbuster, tout dépend en fait. Expérience, expérimentale, voilà.
Des films pour les enfants ou des films d'action ?
Films d'action.
Vous y allez régulièrement ou pas ?
Ouais, une fois tous les 15 jours.
Je peux pas compter 10.
Quel est votre acteur préféré dans les films d'action ?
J'en ai pas.
Alors, que pensez-vous du retour de certains films comme Star Wars ?
Je trouve ça bien.
Enfants ?
Petits-enfants. J'accompagne mon fils.
Quel genre d'acteur aimez-vous bien dans ces films-là ?
Les dinosaures, surtout.
C'est quoi le meilleur dessin animé que vous aviez été voir avec vos enfants ?
Le voyage d'Arlo.
Êtes-vous plus à aller voir un film au cinéma ou attendre qu'il sorte en DVD ?
Partir voir au cinéma.
Que pensez-vous des prix des places de cinéma ?
C'est cher. 8,30 euros la place.
Que pensez-vous des adaptations de livres en film ?
Je trouve ça bien pour certains films, mais sinon, ça dépend.
Pensez-vous que faire des suites à des films qui ont bien marché serait bien ?
Ça dépend des suites. Des fois, c'est vraiment pas terrible. Mais vraiment.
Quel style de film aimeriez-vous voir au cinéma arriver ?
Je sais pas du tout. J'aime bien le fantastique, enfin, un peu de tout.
Ok, et pourquoi ces films-là en particulier, tu n'aimes pas les...
Je pense que c'est trop parti sur des codes et ça joue encore sur les mêmes codes qui ont déjà été utilisés depuis 20 ans et ça marche plus quoi, les gens ils sont pas surpris. Je pense qu'il faut revenir à une certaine ambiance poisseuse ou je sais pas, comme par exemple, je pense qu'il faut s'inspirer s'inspirer, je dis pas aussi copier, mais s'inspirer des grands comme Carpenter, Cronenberg et j'en passe.
Que pensez-vous du cinéma français ?
Je regarde pas trop, pas du tout.
Alors je suis pas un grand fan du cinéma français, je déteste Jean-Luc Godard déjà. C'est pour moi, c'est juste une, enfin, parce que je comprends pas parfois et ça m'énerve, mais sinon c'est plus de la branlette, je trouve. Mais sinon, j'aime pas à la base, j'aime pas la production française. On privilégie trop les grandes productions comme par exemple Les Tuches, Les Profs, etc. Et on passe à côté de plein de films de genre, de plein de petits réalisateurs qui veulent faire des bons films avec vraiment un côté vraiment artisanal. Et non, on préfère foutre des millions chez par exemple Aladdin qui est une grosse bouse. Voilà, donc non, après, t'as froid ? Il fait froid, hein ? Il fait froid.
Et vous venez d'écouter Happy de C2C.
C'est trop bien la radio!
Principe actif 102.4 FM.
Et on va enchaîner avec un autre micro-trottoir sur le thème de la mode avec Fabien.
Qu'est-ce que la mode pour vous?
Une belle connerie.
Qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de communication.
Ouais.
Pour exprimer ses idées.
Comment tu fais pour choisir tes vêtements, Marc ou...
Alors la marque, je m'en fous, je fais très attention au confort.
Plus sur internet et selon mon humeur, enfin, les goûts, tout ça.
Sur quel genre de site, enfin, le nom des sites en particulier?
Les magasins de prêt-à-porter H&M, Pinky, ouais. Enfin, Zara.
Okay. T'achètes des vêtements toutes les semaines, mois ou
Tous les... une fois tous les 6 mois.
Souvent. Tous les mois sûr et des fois de temps en temps.
Et du coup, plutôt Stan Smith ou New Balance?
Toujours Converse.
New Balance. Ça m'est okay.
Pour le prochain micro-trottoir, ce sera le thème de la musique qui vous sera diffusé par Adrien.
Quel est votre style de musique?
Pop.
Tous.
J'ai pas de style particulier, j'aime bien un peu tout.
En fait, moi, j'ai pas un style de musique précis. J'écoute tout ce qui est rap US, en particulier un peu de rap français. J'en écoutais beaucoup avant, maintenant plus trop. Un peu d'électro. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Ça va être un peu tout. En tout cas, tout sauf le métal, en fait.
Plutôt rock.
Musique latino. Oui, j'aime bien le latino.
Moi, j'écoute de tout, pas de style particulier.
Rock.
Bah, plutôt la musique... plutôt les variétés françaises, genre Michel Sardou. Des trucs bien récents.
Okay. Le rap.
J'écoute un peu de tout. Hip-hop.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce style de musique, particulièrement?
Tout. Enfin, j'aime bien... Tu sais pas.
Non. Bah, le rythme.
Déjà, ce que j'aime bien en particulier pour le rap US, c'est leur instrumental. Je trouve qu'elles sont très variées et en fait, je me focalise un peu plus sur le rythme que sur les paroles parce que j'écoute en fait des musiques dont je comprends pas la langue, par exemple des musiques en espagnol, si c'est du kizomba ou autre. Donc moi, au début, je me focalise d'abord sur le rythme et après, je me focalise sur les paroles.
La musique?
Parce que ça réveille le matin et ça remue quand on est un peu ramolli.
Bah, ça permet d'échapper à la, comment dire, au stress quotidien, je sais pas, genre un peu, voilà.
C'est mon génération. Moi, je l'ai dansé quand j'avais mes 18 ans.
Le rythme.
Le rythme.
Ouais.
Car depuis tout petit, c'est là que j'ai commencé.
Bah, ça se prend pas trop la tête, ça se prend pas trop au sérieux.
J'écoutais ça depuis petit. Sur quelle plateforme l'écoutez-vous?
Énergie, la radio.
Aucune. YouTube surtout.
YouTube, d'accord.
La télé. Et sur mon téléphone?
Bah, mon téléphone, en général. Ouais, YouTube, Deezer, des trucs.
Essentiellement en streaming avec YouTube.
YouTube, oui, oui, chez moi aussi.
Donc, intermédiaire, ça peut être sur YouTube, les réseaux sociaux, CD, la télé, la radio, n'importe.
Avec l'Apple Music.
Okay. La même chose.
Ah, pas du tout, mais YouTube, par contre. Ouais, pas du tout via iTunes ou tout ça, mais plutôt via YouTube. Comme ça, j'ai les clips.
Ça dépend, iTunes, Amazon.
Internet, YouTube,
Skyrock. À quel moment la journée à peu près tu écoutes la musique?
Il n'y a pas de moment particulier.
Le soir, j'imagine, non?
Ouais, les soirs.
Ouais, 5 à 7 fois par jour.
D'accord. À quel moment la journée?
Le soir essentiellement. Et le midi.
J'écoute de la musique vraiment tout le temps. Parce que déjà quand je vais à l'école, je suis en train d'écouter de la musique. Quand je rentre aussi, c'est pareil. Quand je prends ma douche aussi. Et quand je sortir, en tout cas.
D'accord.
Ah bon. Peut-être le week-end. Dimanche, oui.
Bah, quasiment tout le temps. Entre les cours.
Ouais, tout le temps entre les cours.
Tous les jours, à n'importe quel moment du jour.
D'accord.
Le matin, midi, soir.
Tout le temps.
Une vingtaine de chansons par jour. Le matin, en me levant. Après manger, à midi. Et le soir, avant de m'endormir.
Bah, tout le temps. Plutôt l'après-midi ou le soir.
Tous les jours. Quotidien. D'accord. Et j'écoute la radio aussi. Le soir et dans la voiture.
Bon. Ah, bah tout le temps.
C'est Merci de Muse. Et nous continuons l'émission des quartiers avec les jeunes du micro-lycée d'Aristide Briand.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Et maintenant, c'est un micro-trottoir sur le thème des réseaux sociaux par Marine et Angélique.
Donc, sur quels réseaux sociaux avez-vous rencontré ?
Twitter, Facebook, Snapchat, Facebook.
Sûrement c'est Facebook.
Instagram. Et c'est tout. Twitter, Facebook, YouTube. Non, pas Tinder.
Et à quelle fréquence vous y allez ?
Oh, j'y vais 2-3 fois dans la journée. Surtout le soir, quoi.
Et en heure, si vous pouvez... Ou en minute ?
Oh, en heure ? Non, si, oui, en heure. Bon, je vais bien dire 2 heures, quand même, j'y suis par journée. Non,
ça va, c'est
raisonnable. Ouais. Disons que je vis plus dans la réalité que... C'est ce que je reproche.
Et plus ou moins tout le temps ?
Ouais. Quand vous avez du temps libre, enfin,
Ouais. Ah, j'y vais, je sais pas, peut-être... Toutes les heures, facile.
Quand vous avez du temps libre, en fait.
Ouais, même quand je suis occupée, j'y vais.
Tous les jours.
Et combien de temps ?
Ça, je sais pas, 2 heures par jour. Une fois par jour, on va dire, au moins 1 heure.
Et que pensez-vous de la nouvelle génération sur les réseaux sociaux ?
C'est... J'ai même pas de mots parce que...
Ah bah, ils sont tristes à voir, je trouve. Enfin, je trouve que genre nous on a un petit peu de. Je sais pas comment dire. Ouais, mais enfin eux vraiment ils sont perdus. Enfin, voilà.
Ils savent pas comment les utiliser en fait.
De trop dessus, on va dire. Ouais, trop. Ils prennent un peu trop
les sociaux. Je pense qu'il faut quand même mettre une certaine limite d'âge quand même.
Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous.
Après. Sinon, c'est un bon moyen de communiquer.
Et sur la nouvelle technologie, vous avez un avis à faire ?
Il y a du bien et du pas bien, parce que ça retire de l'emploi, naturellement. Mmh. Et étant donné que je suis électricien dans l'industrie, je suis plein dedans. Mais bon, ça retire de l'emploi, par contre, c'est peut-être très bonne chose.
Bah, je sais pas. J'ai pas trop d'avis sur ça.
Bah, il y a du bon et il y a du mauvais.
Les nouvelles technologies, elles sont cool, hein.
Franchement, voilà.
Et sur Facebook, êtes-vous abonné à des pages qu'on fait ou c'est juste pour les fans de...
Non, c'est juste comme ça.
Juste pour les fans.
Ouais, c'est pour voir l'actualité des gens et tout. C'est pas pour suivre des trucs en particulier.
Du tout. À suivre.
Non.
D'accord.
Non, j'ai des pages concrètes. La photo, la moto.
Il y a des passions.
Oui, voilà.
Non, du tout.
Du tout.
Non.
Et on continue sur le thème du tatouage avec Nicolas.
Que pensez-vous des tatouages et des piercings ?
Tatouage, j'aime bien, mais piercing, j'aime pas.
Je pense que la plupart des gens qui font des tatouages aujourd'hui savent pas vraiment de quoi ils parlent, en fait, parce que avant c'était vraiment des signes distinctifs dans les tribus, les machins. Mais que moi, j'en ai pas. Je me suis dit que quand j'étais jeune, j'en voulais un, et puis maintenant, je me dis que c'est facile de regretter d'avoir un tatouage et que ça peut vieillir mal et qu'il faut bien le choisir et tout ça.
Les tatouages en général, je trouve ça joli, quoi, donc ça me plaît. Là, d'ailleurs, j'en ai un, je m'en suis fait faire un pour mon anniversaire. Après, les piercings, je suis pas trop fan, donc voilà, je suis plus tatouage que piercing.
J'ai pas vraiment d'avis dessus, qu'est-ce que je pourrais dire j'ai jamais eu envie de me faire un tatouage.
Que pensez-vous des prix des tatouages et des piercings ?
Je trouve qu'au niveau des tatouages, c'est abordable. Après, au niveau des piercings, j'ai pas les informations, donc je commenterai pas. Je ne connais pas les tarifs, donc. Au niveau des tatouages, je connais à peu près les prix, je trouve que c'est tout à fait abordable.
Tatouage, c'est trop, et piercing, je sais pas.
J'en ai absolument aucune idée. Je sais pas combien ça coûte un tatouage, je pense que c'est super cher, mais c'est aussi du super bon travail, donc...
Je connais pas du tout les prix des tatouages.
D'accord. Connaissez-vous des personnes tatouées ou percées ?
J'ai pas mal de copines qui sont tatouées, après percées un petit peu moins. Sinon, c'est des piercings sur la langue, mais ça reste les piercings de base, quoi.
Percé.
Ah oui, beaucoup.
Ah oui, souvent dans le monde de ce que je connais, dans le monde de la musique, souvent il y a des gens qui font du rock and roll, qui ont souvent plein de tatouages et plein de percées.
Non plus, non.
Pour vous, à quoi sert un tatouage ?
À exprimer peut-être, je sais pas, un souvenir, des sentiments, Je sais pas du tout.
Aujourd'hui, c'est à la fois une distinction et en même temps un moyen d'appartenir à un groupe.
Juste, c'est un aspect décoratif. Enfin, ça peut représenter quelque chose aussi. Ça peut avoir un symbole pour la personne, notamment au niveau du tatouage, comme c'est mon cas pour moi, par exemple. Après, c'est plus l'aspect décoratif pour faire joli. Et parce que c'est à la mode aussi.
C'est quelque chose de notre vie qu'on essaye d'exprimer.
Comment percevez-vous une personne tatouée ou percée ?
Comme une personne normale, j'ai pas d'a priori, parce qu'une personne a des piercings ou parce qu'elle a été tatouée, enfin j'ai pas de... Pour moi c'est une personne comme les autres.
Tatouée, bah je sais pas, mais percée, je trouve ça vulgaire.
J'ai pas d'avis dessus, chacun a le droit de faire ce qu'il veut.
Comment je les perçois ? Joker, j'en sais rien, je sais pas du tout.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Prends garde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Prends garde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
C'était Carmen de Stromae. On est toujours en direct avec les élèves du micro-lycée pour l'émission des quartiers.
Vous n'avez plus qu'une chose à faire, branchez-vous 102.4 FM, radio...
Principe actif.
Ok. le prochain micro-trottoir est sur le thème de la télévision par Jean-Luc.
Entendu.
Pensez-vous que la télé est un bon média ?
Oui, effectivement.
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce que vous regardez comme programme?
Je regarde pas la télé, des séries.
Des séries, ouais. Beaucoup sur la 3, j'aime beaucoup Des Racines et des Ailes.
D'accord. Pour vous, que voulez-vous rajouter comme programme?
Plus d'émissions culturelles.
J'ai pas vraiment d'idée.
Quand regardez-vous la télé? Le soir, après 20h.
Le soir et le matin.
Pourquoi regardez-vous la télé? Alors, je vis seul et la télé est un moyen de se faire une compagnie.
Pour me divertir.
D'accord.
Bonjour, nous sommes le micro-lycée Aristide Briand. Nous allons couvrir prochainement les mondiaux de handball scolaire qui se dérouleront du 11 mars au 19 mars. Dans ce cadre, nous allons interviewer Marc Ferron, responsable du pôle espoir handball Évreux. Bonjour Monsieur Ferron, merci de nous répondre.
Bonjour.
Monsieur Ferron, vous êtes responsable du pôle espoir handball Évreux. Vous, personnellement, quel a été votre parcours en tant que joueur puis entraîneur?
Donc moi je suis originaire du sud de la France, donc j'ai fait un parcours en sport-études donc à Marseille. J'ai participé à un championnat du monde scolaire en 89 en Israël, à Rishon-LeZion, où nous avions fini 7e. Mon parcours en tant que joueur à la sortie, ça a été d'évoluer aux espoirs de Vitrolles-MUC Handball. C'était une équipe qui existait à l'époque, qui n'existe plus actuellement. J'ai joué jusqu'en 2e division. Et ensuite, j'ai arrêté. J'ai passé un concours pour devenir prof de sport. Et depuis 2000, je suis professeur de sport à la direction régionale de Rouen et placé auprès de la Fédération française de handball.
D'accord. Comment votre parcours personnel vous a-t-il amené à prendre la direction du pôle espoir?
En fin de compte, dans le cadre de nos missions de conseiller technique sportif, on a à un moment donné plusieurs missions. Moi, je suis arrivé en 2000 sur la Ligue et j'avais des responsabilités sur une coordination d'ETR et sur du développement et de la formation de cadres principalement. Et lorsque mon précédent collègue Patrice Boutré est parti, j'ai été nommé pour prendre son remplacement sur la structure.
D'accord, très bien.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Pôle Espoir et ses objectifs?
Les objectifs du Pôle Espoir, ils sont clairs, c'est renouveler les équipes de France en numéro 1 et ensuite assurer un système qui permette de renouveler l'élite. Donc ça veut dire de faire en sorte que les jeunes intègrent des centres de formation de joueurs, de clubs professionnels. C'est la première des priorités qu'il y a sur la structure Pôle. Derrière, la présence d'un Pôle sur une ligue, elle permet de faire en sorte aussi à des jeunes de pouvoir s'évaluer sur le contexte international, participer à des stages nationaux, voire avoir relativement jeune, une sélection en équipe de France. Et pour les dernières années, principalement, pouvoir intégrer une équipe de France jeune qui, généralement, tous les étés, participe à une compétition majeure, soit un championnat d'Europe, soit un championnat du monde.
Quelles sont vos responsabilités au sein du pôle ?
Être responsable d'un pôle espoir, c'est principalement, je pense, à un moment donné, une coordination. Parce que la structure, c'est 11 encadrants. Il y a 11 personnes qui interviennent. Moi, j'ai beaucoup de tâches au niveau de la partie du managerat des intervenants. Je suis responsable vis-à-vis du lycée, je suis responsable vis-à-vis des parents, vis-à-vis des clubs, vis-à-vis de la ligue, vis-à-vis de la fédération. Donc, on a beaucoup de charges qui nous incombent par rapport à cette responsabilité. Et en plus de celle-là, on fait les entraînements. On assure les entraînements, que ce soit au niveau handball, que ce soit au niveau physique. On essaie d'aller voir les jeunes les week-ends en club. On essaie de suivre les jeunes qui partent sur les équipes de France. On reste au contact des équipes de France qui nous renvoient souvent des orientations sur le jeu, sur des formations individuelles. Donc je dirais que c'est vraiment du temps plein. Une journée au pôle actuellement pour un jeune, c'est lever 7h15, coucher 22h30. Le responsable du pôle, moi je suis là à 8h et je pars le soir à 19h30. Et quand j'ai fini ça, j'ai encore d'autres missions à côté au niveau de la Ligue qui sont généralement se rejoignent.
Pouvez-vous nous parler de vos différents collaborateurs et intervenants au sein du pôle?
Oui, alors comme je disais, nous sommes 11, donc je vais essayer de les décliner parce qu'il y a plusieurs champs en fin de compte. On a le champ scolaire, on a le champ médical, on a le champ technique, on a le champ de la préparation physique et on a le champ du suivi. Donc en fin de compte, j'ai une personne avec moi qui est présente 3 jours par semaine sur l'aspect technique, qui permet de prendre et de mettre en place des groupes sur les jeunes joueurs. Ensuite, j'ai deux personnes qui s'occupent de la préparation physique, une personne qui vient toutes les semaines le lundi pour assurer la préparation qu'on appelle cardiaque, donc travail cardio-pulmonaire, qui est un ancien athlète, qui est au club d'Évreux Athlétisme. Après, j'ai une personne qui vient faire la partie musculation 2 jours par semaine, qui nous donne les orientations de travail et qui assure aussi de ce fait-là deux séances. Et ensuite, par rapport à ça, on a le domaine médical, c'est là où il y a le plus de personnes. On a sur le pôle une obligation de suivi des jeunes athlètes, hein, dans le suivi longitudinal et dans le suivi de rentrée. On a donc un médecin référent qui est là tous les lundis, qui voit les jeunes, qui est à la clinique Bergougnan et qui permet d'avoir accès aux soins et surtout aux examens. On a un kinésithérapeute qui est là le lundi et le jeudi, toutes les semaines. On a un kiné qui vient avec nous sur les compétitions, qui lui vient que sur la partie compétition. Et on a une diététicienne qui vient faire une intervention autour de l'aspect diététique par rapport à la performance. Et on a un psychologue qui, dans le suivi longitudinal, chaque athlète a l'obligation à un moment donné d'avoir un entretien avec. Et ensuite, on a la partie scolaire qui est quand même la partie importante, hein, dans le cadre du double projet. On a un CPE référent du lycée, donc qui est Monsieur Le Riche, qui assure, je dirais, la relation avec l'ensemble des équipes pédagogiques. On a ensuite derrière, depuis cette année, un service civique, une personne qui gère la partie, on va dire, suivi du projet scolaire, qui accompagne les jeunes dans leur organisation méthodologique, surtout pour les secondes, parce que c'est là où on se rend compte que c'est le plus délicat par rapport aux rentrées. Et puis, j'espère que je n'ai oublié personne, on doit à peu près avoir tout le monde. Je n'oublierai pas dedans les profs principaux de l'ensemble des classes, hein, parce que les jeunes sont répartis sur un ensemble de classes et qui sont vraiment des interlocuteurs en direct. Alors on ne peut pas les compter dans le staff, mais c'est vraiment des personnes qui sont actives dedans, et l'équipe de direction, parce que ben, mine de rien, il nous permet de travailler dans de bonnes conditions.
D'accord, très bien. Comment le pôle espoir essaie-t-il concrètement de concilier excellence sportive et exigence scolaire ?
Alors, en France, on a un État interventionniste. Donc, depuis 72, en fin de compte, il y a eu des Jeux Olympiques où les résultats ont été catastrophiques. Et là, l'État a décidé de prendre en charge la partie du sport de haut niveau. Donc, depuis, on va dire, 72, il y a eu une volonté à un moment donné de reprendre en main les choses avec, depuis 1984, la loi Avice, qui a clairement positionné l'État comme référent par rapport au sport de haut niveau. Donc, sur chaque Olympiade, hein, parce qu'on fonctionne sur Olympiade, il y a des aménagements. Donc, on est passé de la logique de filière à la logique de parcours d'excellence sportive. L'année prochaine, on va passer sur une logique de parcours de performance fédérale. Donc, en fin de compte, à chaque fois, ça donne un statut aux structures, voire aux athlètes. Il faut savoir qu'actuellement, les structures dans notre discipline, nous, on est 24 pôles, rien qu'en garçons. On a 480 jeunes qui sont listés, donc qui vont de France A à France Jeune. Le jeune qui rentre dans une structure comme ça, il rentre dans une logique d'excellence. Alors, bientôt, ça s'appellera performance et non plus excellence, parce que ben, ça change un peu sur toutes les Olympiades.
Comment les jeunes joueurs sont-ils recrutés et à quel niveau ?
Alors, en fin de compte, on a la possibilité ici de faire entrer des jeunes dès la troisième. Hein, donc, ils sont scolarisés au collège Jean Jaurès. C'est généralement des jeunes qu'on a repérés pour des profils spécifiques, soit très grands, soit des jeunes qui étaient isolés dans un club et qui ne pouvaient pas bénéficier d'entraînement supplémentaire. Le système de recrutement, on travaille 3 ans avant l'entrée au pôle. Ça veut dire que le système fédéral, de toute façon, a mis en place un système de détection. Donc il y a le club, hein, le jeune vient et joue dans les compétitions. Ensuite, il a un système qui permet d'intégrer une équipe départementale. Il y a une compétition nationale de ces jeunes-là et un stage qu'on pourrait appeler un stage national de la génération qui se fait par zone. Nous, on est sur la zone nord-ouest. Et à partir de là, il y a l'intégration sur les stages régionaux, l'équipe de ligue, et après l'équipe de ligue, un stage national. Donc ça concerne les élèves de 3e. Et ensuite, à partir de là, ce sont les équipes de France cadets, jeunes et juniors qui se mettent en place, en sachant que nous, les juniors, on n'est pas concernés, les jeunes, on n'est concernés que pour les terminales. Donc en fin de compte, le système, il se met en place vraiment en amont sur 4e, 3e, à travers les compétitions de club et les compétitions de référence.
Va dans le but pour voir les impacts, quel bruit ça fait.
Pouvez-vous vous présenter ?
Moi, j'appelle Noël Legendre, j'ai 15 ans et je joue à Saint-Marcel Vernon de Balle.
Bonjour, moi c'est Nathan Ménard. Je joue à Saint-Marcel Vernon de Balle et j'ai 15 ans. Et j'habite à Grosseuvre, à 15 minutes d'ici.
Bonjour, moi c'est Thomas Orchini, j'ai 15 ans. Je joue à Saint-Valery-en-Caux et j'habite à 1h30 d'ici.
Dans quel club t'entraînes-tu ?
Saint-Marcel-Vernand-de-Bal.
Saint-Marcel-Vernand-de-Bal, comme il vient de le dire.
Saint-Valéry.
Entre le lycée et ton club, à quelle fréquence t'entraînes-tu ?
Dans mon club, je m'entraîne une heure et demie par semaine. Et au pôle, on se traîne 5-6 heures.
La même chose, on est dans le même club, du coup, c'est la même chose.
Pareil.
À quel âge as-tu commencé le handball ?
Moi, j'ai commencé le handball il y a 4 ans, donc quand j'avais 11 ans.
Moi, j'ai commencé, j'avais 5-6 ans.
Ah ouais, t'as commencé jeune ?
Oui.
Moi, j'ai commencé quand j'avais 12 ans.
Vois-tu ton avenir dans le hand ?
Bah ça, je peux pas dire. En fait, ça dépend de ce que je fais sur le terrain et en dehors, si je travaille bien à l'école. Mais ça va, ça se passe bien. Et sinon, sur le terrain, je donne tout pour essayer de faire le maximum, quoi, pour essayer de devenir.
Bah la même chose, bah faut tout donner, mais tu peux pas, faut avoir quelque chose à faire plus tard, faut avoir un autre métier pour voilà.
Bah ouais, faut y croire, mais faut essayer de bosser en décalé, quoi, pour essayer de trouver quelque chose aussi, quoi.
Si, par exemple, vous ne pouvez pas devenir handballeur, vous ferez quoi d'autre ? Vous avez pensé à un métier ?
Oui, c'est pour ça qu'on aussi. C'est vrai qu'il faut travailler entre les deux.
Travailler à l'école,
il n'y a pas que le handball. Il n'y a pas que le handball.
Il faut penser à tout.
Pour le mondial scolaire, avez-vous un adversaire que vous redoutez ?
Bah, moi, personnellement, je pense que la Pologne, c'est les plus forts dans notre groupe, mais après les autres, je pense que ça peut le faire.
Après, on connaît pas trop les équipes, on sait pas trop ce que ça donne, mais après, apparemment, de toute façon, on sait que les équipes de l'Est, c'est costaud, ouais. Ça y va, donc, et comme on a des équipes de l'Est dans notre poule, normalement,
ça va être compliqué.
Ouais, ça devrait être pas mal, apparemment.
Ouais, mais faut pas se laisser abattre, on sait qu'on peut les battre et tout ça, sachant que c'est du NSS, ça peut aller, mais
oui.
Faut se laisser quand même, quoi.
On peut se faire confiance.
Voilà.
Depuis combien de temps vous préparez au mondial ?
Depuis qu'on est au courant, quoi.
Août-septembre.
On a vraiment commencé au mois de septembre, quoi. C'est la rentrée.
Ouais, c'est la rentrée,
il y a 5 mois.
Depuis le début de l'année, quoi. Depuis le début de la rentrée.
Avez-vous des entraînements particuliers ?
C'est-à-dire
genre préparation physique, sprint.
Oui, on en a. Bah, par exemple,
lundi,
on fait ça tout le temps.
Pour les mondiaux.
Non, ça change pas. C'est
ça
toujours.
As-tu le temps de bien travailler tes cours entre la journée des cours et les entraînements ?
Moi, personnellement, je sais que après l'entraînement, je suis crevé et que j'ai un peu de mal après pour les cours à suivre, mais j'essaye de le faire, quoi. Où ça se passe ?
Moi j'ai des difficultés à l'école, donc faut que je bosse. Donc en plus on est fatigué après les entraînements souvent, donc on a du mal, mais on essaie quand même, on se force.
Moi pareil, j'ai un peu de mal quand même j'ai du mal à me concentrer quand je suis fatigué, donc ce soir c'est vrai que c'est difficile. Puis sachant qu'on a, on a une heure et quart, une heure vingt tous les soirs pour travailler, donc faut s'organiser, faut s'avancer, tout ça, quoi.
Mais est-ce que vous avez un emploi du temps aménagé ?
Oui. Déjà, on finit à 15h tous les jours.
16h.
Mmh. Oui, 16h, pardon. 16h tous les jours. Donc, c'est vrai
qu'on n'a pas cours le samedi.
On n'a pas cours le samedi aussi.
Ni le mercredi après-midi ?
Non, le mercredi après-midi.
À la place du sport et de l'AP, on a musculation.
On fait musculation ici.
Pendant les 2 heures qu'eux, ils font sport au AP, on fait musculation.
D'accord. Et vous êtes dans une classe normale ou
Oui, normal.
On est mélangé avec deux basketteurs du centre de formation puis des élèves normaux.
Oui.
D'accord. Bon, merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Tovlo Habits. Vous êtes toujours dans l'émission des quartiers présentée par les élèves du micro-lycée.
Le cas condamne une nouvelle fois les radios libres. Les autoriser, dit-il, ce serait l'anarchie des ondes.
Principe actif par principe actif ou actif par principe, c'est principe actif.
L'équipe, des bénévoles tout à la fois, techniciens et journalistes, tous ont en commun de faire une radio libre.
Principe actif.
Nous continuons avec la suite du reportage sur les mondiaux de hand.
En mars 2016, le championnat de monde scolaire de handball se déroule dans l'académie de Rouen. Comment le Pôle Espoir participe-t-il à cet événement ?
On va dire que c'est un concours de circonstances parce que à la base, la fédération, à travers la direction technique nationale, ne souhaitait plus que les pôles participent à cette compétition. Pour plusieurs choses, c'est qu'on a déjà un calendrier pour les jeunes qui est relativement important et que la qualification à un championnat du monde se déroulait sur deux moments d'évaluation. Il y avait d'abord un tour, je dirais, qui est interrégional et ensuite il y avait un tour national. Donc ce qui rajoutait à des jeunes qui, pour la plupart, étaient internationaux, 4 à 5 jours d'absence de cours et de charge de travail. Donc au mois de juin, ils ont décidé de ne plus faire participer les pôles, mais en fin de compte, l'UNSS n'entendait pas les choses comme ça. Et il y a eu, à un moment donné, un petit peu un lobbying pour faire en sorte que le pôle d'Evreux, vu que c'était en Normandie et surtout à Rouen, que le pôle d'Evreux et le pôle féminin du Havre participent à cette compétition pour représenter la France. Donc je dirais que c'est bien, je suis content, c'est un événement pour les jeunes, mais moi, dans ma planification, c'est pas quelque chose qui était programmé. On était prévenu relativement tardivement. À ce jour, 3 jours après, je joue la compétition référence des pôles. Peut-être avec certains deux joueurs qui pourraient peut-être imaginer une sélection nationale, voire une sélection de zone des pôles. Donc dans la programmation, ça m'arrange pas, mais bon, après, on va quand même représenter la France, et je pense que c'est quelque chose qui est important, et sur lequel on peut pas se permettre, à un moment donné, de passer à côté. Donc voilà, on a été plus désigné qu'on a gagné notre place. Ce que souvent je répète aux jeunes, c'est que on ne peut pas revendiquer quelque chose sur quelque chose qu'on n'a pas gagné. Et maintenant, si on gagne le championnat du monde, on aura montré qu'on méritait d'être à notre place.
Que sont exactement les Interpôles ?
Alors les Interpôles, en fin de compte, c'est le moment où l'ensemble des structures jouent les unes contre les autres. Alors l'ancienne formule voulait que tous les pôles se retrouvaient à Lyon à l'époque. On partait une semaine. On jouait à travers des poules et il y avait des finalités avec un champion Interpol. Donc la formule a été arrêtée il y a 2 ans, où on est maintenant sur une formule qui veut mettre en place une sélection de zone des pôles. Donc on a toujours gardé les Interpol. Les Interpol ont lieu à Amiens, donc juste après les championnats du monde, du 21 au 24 mars. L'objectif, c'est qu'on joue contre Amiens, Dunkerque, Cesson, Segré, et le pôle de La Réunion qui vient sur cette compétition-là. À travers cette compétition, une sélection est faite de 16 joueurs. Ces 16 joueurs iront affronter les 3 autres zones de la France sur une compétition qui s'appelle la sélection de zone des pôles. Donc c'est tout le monde joue les uns contre les autres et à partir de là, le champion c'est une zone et non plus uniquement un pôle espoir.
Pensez-vous que le handball soit assez connu et médiatisé par rapport à d'autres sports collectifs ? Avez-vous noté des évolutions à ce propos ?
On pourrait dire qu'on est toujours, on pense qu'on pourrait mériter mieux. Moi, je pense que si on regarde quand même ce qui se passait avant, on peut parler de mon époque, hein, si on voulait voir un match de handball, il fallait prendre une cassette vidéo. Même les finales n'étaient pas retransmises, mais on n'était pas une nation majeure, donc on n'existait pas. On est passé de 200 000 licenciés à plus de 500 000 licenciés. On attire du monde. L'arrivée de sponsors généreux sur certains clubs permet à un moment donné de structurer le secteur pro. Moi, j'avoue que actuellement, si j'ai envie de regarder du handball tous les jours, je peux. Si je veux regarder 3 matchs par jour le week-end, je peux. Il faut payer, c'est sûr, mais à un moment, c'est quand même pas mal d'avoir Bein Sport qui retransmet 2 fois par semaine un match de LNH, plus les matchs de Ligue des Champions. Oui, Moi, je pense qu'on pourrait être mieux médiatisé, mais par rapport à qui, par rapport à quoi? Le football est en avance par rapport à ça. Ils se vendent mieux. C'est un sport vraiment beaucoup plus populaire que le nôtre. Moi, je pense que nous, sur notre médiatisation, je serai plus sur les logiques de valeur qui se dégagent à travers l'équipe. Je pense que Claude Onesta est le meilleur ambassadeur autour de ça. Moi, je suis satisfait quand même, quoi qu'il en soit, parce que tous les jeunes actuellement, si on leur parle d'un match, ils savent qu'ils ont accès dessus à travers Internet. Il suffit de voir, par exemple, les sélections nationales, quand elles jouent à l'extérieur, il y a du streaming, on peut voir des matchs en direct. Donc non, moi, je trouve qu'on a une couverture qui correspond réellement à notre discipline. On aimerait avoir plus, mais je pense qu'il faut aussi savoir satisfaire de ce que l'on a.
Quels sont vos souhaits pour l'avenir du Pôle Espoir ?
L'avenir du Pôle Espoir, si on prend les compétitions de référence, je dirais, et puis l'évaluation, ça serait de faire un bon championnat du monde. Alors pour moi, un bon championnat du monde, au-delà du résultat, c'est que tout le monde en ressorte quelque chose, que ce soit en performance individuelle ou collective, qu'on soit capable de sortir quelque chose qui nous permette de continuer à travailler, que les jeunes apprennent en expérience, que derrière ça, ça soit une expérience qui nous permette de passer de bons interpoles. Alors l'évaluation des interpoles au-delà du classement, ça sera le nombre de jeunes qui intégreront la sélection de zone d'épaule. L'objectif, c'est d'en avoir 3. C'est généralement ce qu'on a sur 16. 4, ça serait une très bonne chose. Ensuite, l'avenir du Pôle Espoir, il n'est pas qu'entre mes mains. Il est entre les mains aussi, à un moment donné, des politiques et de la nouvelle refonte du parcours de performance fédérale, qui pourrait être amené à un moment donné à montrer le manque qu'il y a en Normandie. On n'a pas de club de LNH, donc on n'a pas de club de première division. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est pénalisant pour nous. Pourquoi ? Parce que les jeunes sont obligés d'aller chercher des centres de formation à l'extérieur de la Ligue et sont souvent peu prioritaires. Donc on a un problème de niveau de jeu qui est en train de se réguler. Avec la nouvelle Normandie, j'espère que l'année prochaine, on aura 2 clubs en Pro D2, mais qui seront donc à Caen et à Cherbourg, et puis des clubs en N1 avec des volontés de monter. Maintenant, je dirais que l'avenir du pôle, il répond pas à une personne ou à une structure, il répond à la volonté des licenciés des clubs. C'est-à-dire si les clubs ont envie de faire en sorte que le pôle ait une vraie existence et une vraie logique d'excellence, elle dépend d'eux. Il y a des jeunes qui sont méritants, qui s'entraînent 7 fois par semaine, qui ont un réel investissement, et même s'ils sont pas dans leur club, c'est des jeunes, dès qu'ils mettent le maillot d'une équipe, qu'elle soit l'équipe de France, du pôle ou de leur club, c'est des jeunes qui sont réellement investis. Voilà, j'aimerais juste que ces jeunes-là, à un moment donné, on puisse leur donner un petit peu plus d'initiative de jeu. Surtout quand on voit qu'en France A, on a des joueurs de 17-18 ans qui intègrent directement France A. Je pense qu'en France, on a une qualité de formation et je pense que les jeunes devraient être un petit peu plus mis en avant. Moi, je tiens à remercier, cette invitation à venir parler du Pôle Espoir. Moi, je pense que par rapport à l'initiative du micro-lycée et ce que nous, on peut vivre dans le parcours d'excellence, c'est que peut-être que l'intégralité des jeunes, à un moment donné, ont été confrontés à des difficultés. Moi, je trouve très intéressant que ces jeunes-là, à un moment donné, décident de revenir dans le circuit, essayer de revenir faire quelque chose dans le monde scolaire, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et ne pas oublier qu'à la base, le Pôle Espoir, il est quand même sur le double projet. On a quand même vocation à faire en sorte que les jeunes sortent avec le bac, quel qu'il soit, pour faire en sorte que l'avenir sportif et l'avenir scolaire, voire professionnel, rentrent dans le même cadre. Je trouve que le micro-lycée, dans cette initiative de création, va vraiment dans ce sens-là. Donc je trouve ça très agréable qu'à un moment donné, des jeunes rebondissent après avoir peut-être vécu 1 ou 2 échecs. Je souhaite bonne chance à tous ces jeunes-là pour la suite de leur vie personnelle et professionnelle.
Monsieur Marc Ferron, nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Vous nous avez permis de mieux connaître le Pôle Espoir ainsi que les mondiaux qui se dérouleront du 11 au 18 mars. Nous vous souhaitons une bonne continuation et bonne chance pour les mondiaux.
Je vous remercie. Ce reportage a été présenté par le micro-lycée.
Ainsi se termine cette émission des quartiers, présentée par la classe de motifs du Licro-Lycée. En espérant que cela vous a plu, ce programme est disponible sur internet en podcast à www.principactif.net. Prochaine émission le 24 février sur le thème des pro-gamers. À bientôt.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.